Les femmes et les houris aux yeux de gazelle. Les Occidentaux sont en général avertis de ces images de jeunes vierges au paradis, toutes dévouées à assouvir les désirs sexuels des hommes. Et les femmes ont fait remarquer que rien n'était dit sur les récompenses qui les attendaient au paradis. Voici quelques informations qui vous permettront de vous faire un avis personnel sur ces questions. Le Coran, dans un certain nombre de passages, déclare sans équivoque que les hommes et les femmes sont égaux à l'heure du jugement dernier, étant jugés sur la base de leurs propres actions qui peuvent leur valoir l'entrée au paradis. Les épouses d'hommes vertueux, tels Lot et Noé, ont pu être condamnées à l'enfer en raison de leur incroyance. L'épouse d'un incroyant, la femme du Pharaon, a gagné son ciel en sauvant Moïse. Rien dans le Coran, ni même dans les traditions plus tardives, ne soutient l'affirmation selon laquelle le Coran dirait que les femmes n'ont pas d'âme. Le Coran se réfère explicitement dans quatre passages aux houris, Our, les sourates 52-20, sourates 56-22, sourates 55-72 et sourates 44-54. Probablement dans un ordre chronologique. Ces passages, et plusieurs autres qui se rapportent aux mêmes femmes, datent tous de la période mécoise de la mission de Mohammed, avant l'émigration à Médine en 622. Ce mot de « houri » ne se retrouve pas dans les passages du Coran datant d'après 622. Il y est plutôt fait référence à des femmes pures des hommes, littéralement des compagnes. Le terme arabe de « our », se rapportant à la blancheur, était à l'origine appliqué aux gazelles, avec leurs grands yeux noirs cerclés de blanc. Si l'on prend ce terme au pied de la lettre, les houris sont des femmes avec de grands yeux noirs finement tourlés et avec sans doute la peau claire. Dans le Coran, les houris sont des vierges amoureuses aux seins bien fermes qui n'ont été touchées par aucun homme ni aucun djinn. Elles vivent dans des pavillons séparés et se conduisent avec pudeur. Ces descriptions du paradis, datant de la période mécoise, semblent principalement destinées à des hommes et évoquent les plaisirs qui, pour les Arabes de l'époque, correspondaient à ce que l'on pouvait espérer de mieux et leur donnaient une vision idyllique du paradis, qui devait leur paraître plus désirable encore que tout ce qu'ils connaissaient sur terre. Le Coran et la tradition sont beaucoup moins disert sur ce qui attend les femmes au paradis. Pour certains musulmans, cela ne signifie pas que les femmes n'ont pas de plaisir sexuel correspondant dans le paradis, mais plutôt que la pudeur exclut de décrire ces plaisirs. Personnellement, cet argument ne me paraît pas très convaincant, mais peut-être d'autres peuvent-ils le comprendre. Des traditions plus tardives se sont longuement penchées sur la description des houris. Ce sont des vierges perpétuelles, à la peau diaphane. Chacune porte sur un sein le nom de son mari humain et sur l'autre celui de Dieu. Elles portent des pierres précieuses et leur visage est beau comme un croissant de lune. Elles vivent à part dans des pavillons comportant 70 lits et ont à leur service 70 000 demoiselles de compagnie. Elles ne peuvent tomber enceintes et n'ont pas de règles. Les hommes ont comme compagnons, selon le texte, leurs épouses humaines et une houris, voire 72 houris. En même temps, on dit que les épouses humaines sont infiniment supérieures aux houris du fait de leur piété et de leur fidélité aux exigences de l'islam. D'autres traditions ont un point de vue beaucoup moins égalitaire à l'égard des femmes que celui exprimé dans le Coran. Certaines indiquent que, créées à partir de la dernière côte d'Adam, les femmes sont inférieures aux hommes. D'autres disent que les femmes sont des tentatrices, un argument qui ne figure pas dans le Coran, et que la chute d'Adam est due à la tentation d'Ève. Une tradition qui comporte plusieurs variantes possibles dit que quand Mohammed a examiné l'enfer, il a constaté que la majorité de ses habitants étaient des femmes. Selon d'autres traditions, le salut de la femme serait fonction de son degré de soumission à son mari, tout comme le salut de l'homme dépend de sa soumission à Dieu. Les féministes islamiques précisent que l'authenticité de certaines de ces traditions est douteuse et ne les considèrent pas comme faisant partie de la révélation, mais plutôt comme une expression de la domination masculine qui a émergé dans l'histoire de l'islam et est allée à l'encontre de l'égalitarisme du Coran. J'ai du mal à croire que les théologiens musulmans approuvent l'idée d'inciter de jeunes hommes à être volontaires pour des attentats suicides, en leur faisant miroiter des promesses de voluptés inavouables en guise de récompense. Pour que le martyr soit recevable comme tel, il faut qu'il soit consenti pour le service de Dieu, dans une soumission totale à ses volontés, et non dans l'espoir d'en retirer un profit personnel. Depuis le siècle dernier, l'Occident n'a de cesse de critiquer l'islam à cause du traitement qu'il réserve aux femmes musulmanes. Certains occidentaux sont fascinés par l'évocation des houris, par la danse du ventre et les images de harem où les femmes sont au service des désirs de l'homme. Au XIXe siècle, les occidentaux ont critiqué l'islam pour le regard qu'il portait sur les femmes, alors même que, de multiples manières, les droits des femmes occidentales étaient plus sévèrement bafoués que ceux des femmes musulmanes.
Pour aller plus loin, purgatoire, limbe et paradis. L'islam n'a pas de purgatoire, au sens où il s'agirait d'un endroit distinct du ciel et de l'enfer, où les êtres humains qui ont péché viendraient se purifier pendant un certain temps en attendant d'aller au ciel. Malgré tout, la croyance populaire est très attachée à la miséricorde de Dieu, qui est si vaste que même les musulmans pécheurs, qui n'auront pas commis le péché mortel d'adorer d'autres dieux, seront finalement sauvés, même s'ils se trouvent au niveau supérieur de l'enfer à l'heure du jugement dernier. Certains musulmans évoquent même la possibilité que les non-musulmans finissent par aller au ciel un jour, car la miséricorde de Dieu irait jusque-là. Mais ce point ne rencontre pas l'approbation de tous. L'islam n'a par ailleurs aucune notion de ce que l'on appelle dans le christianisme les limbes, un endroit où vont ceux qui ne méritent ni le ciel ni l'enfer. Cependant, certains commentateurs voient dans la sourate 7, 46-48, une évocation de ce que peuvent être les limbes. Ce passage parle de personnes qui se trouvent sur les hauteurs. De là-haut, elles voient ceux qui sont en enfer endurer leur supplice et ceux qui sont dans le ciel vivre dans la félicité. Ces personnes sur les hauteurs n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre groupe. Il semble qu'elles n'iront jamais en enfer. Les interprétations diffèrent quant à savoir si elles pourront un jour aller au ciel.